plus.
Revivez les Jeux Olympiques autrement avec votre émission Destination Jeux Olympiques sur Radio Plus.
Et on est de retour pour cette deuxième partie jusque 13h de Destination JO, l'émission qui vous fait revivre les Jeux Olympiques autrement avec ceux qui les ont vécus dans les coulisses sportifs, anciens sportifs, également ceux qui en espèrent des retombées tant sur le plan des licenciés que sur le plan économique. En première, nous avons eu le plaisir d'avoir eu Yann Cusack, juge arbitre qui officiera sur les Jeux Paralympiques et qui a officié à plusieurs Olympiades depuis 2004. Nous avions également Boris Delecroix qui est responsable président du club hôtelier Lille Métropole, et avec nous toujours en studio Arnaud Cellier qui est chargé de mission au comité régional olympique et sportif, et Thierry Tempé est toujours en ma compagnie avec deux invités avec nous en studio que tu vas présenter, Thierry.
Oui, alors avec beaucoup de plaisir, puisqu'on a dans le studio ça brille hein, puisqu'on a de l'or, puisqu'on a avec nous Joachim Marx, médaillé aux Jeux Olympiques de 1972 avec l'équipe nationale de football polonaise. Bonjour Joachim.
Bonjour.
Et puis on a François Brisson qui a été lui médaillé avec l'équipe de France de football en 1984, grande année 1984, puisqu'il a été médaillé aux Jeux de Los Angeles, médaille d'or aussi. Bonjour François.
Bonjour Thierry.
Et puis on a un troisième invité par téléphone que je vais te laisser également présenter, mais qu'on va accueillir.
On a aussi Alex au téléphone, Alex Stasiewicz, qui lui n'a pas été médaillé puisque il a joué les Jeux Olympiques de Montréal en 1976 avec un certain Michel Platini, une grosse équipe à cette époque-là, on citera quelques noms tout à l'heure. Il n'a pas été médaillé parce qu'il a été battu en quart de finale du tournoi de football par l'équipe est-allemande. Bonjour Alex.
Bonjour.
Oh Alex, petit problème de voix. Hein. Je sais que tu n'as pas pu nous rejoindre parce que tu as un petit problème de santé, mais on est content de t'accueillir Alex, et je crois que Julien a une question à te poser.
Une question qui d'ailleurs sera commune à tous nos invités, c'est un petit peu le fil rouge de cette émission. Quand on pense Jeux Olympiques, quel est votre premier souvenir, messieurs? Je propose de commencer par Alexandre qui est par téléphone. Alexandre, ton premier souvenir des Jeux Olympiques, ta première émotion marquante des JO, c'était quoi?
Ben d'abord, c'était l'arrivée au stade, parce que c'était grandiose. C'était le premier défilé. J'avais jamais vécu ça. Un défilé des Jeux Olympiques avec toutes les nations, tout ça et tout, c'était fantastique. D'abord, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est magnifique. C'est quelque chose qu'on peut pas rater dans sa vie, quoi. C'est sûr.
Et c'est forcément beaucoup beaucoup d'émotions. Joachim, ton souvenir des Jeux Olympiques, quelle serait-il ta première image marquante des JO?
C'est comme Alex, c'est le stade, le défilé, qui n'était pas facile parce qu'on a été obligé de se regrouper sur les terrains d'entraînement 3 heures avant le défilé, en plein soleil. Alors c'est pas facile. Devant la télé, peut-être pour les spectateurs, c'est mieux. Mais pour nous, c'était pas facile.
Et pour François?
Alors écoutez, moi j'ai deux souvenirs. C'est donc la première image des Jeux Olympiques, c'est enfant, en 68, c'est le saut de Bimon. Donc mon premier souvenir de sport, c'est des Jeux Olympiques en 68, le saut de Bimon. Ça m'avait marqué. Et après, en tant qu'athlète, c'est quand on est arrivé au village olympique. Dans la matinée, après s'être qualifié pour rejoindre le village. Et il y avait la finale du 100 mètres de Carl Lewis. Donc on est tous partis, toute l'équipe, on a été voir dès notre arrivée, quelques heures après notre arrivée. On est allé au stade Coliseum de Los Angeles voir Lewis gagner le 100 mètres. Donc on était tous, ça a été marquant tout de suite.
Et Carl Lewis qui a marqué l'histoire de l'athlétisme, Thierry, c'est un souvenir qui est revenu chez beaucoup des personnes qui sont exprimées depuis le début de cette émission. Il fait partie de ces athlètes qui ont marqué au-delà d'une génération ou de plusieurs générations, qui ont marqué l'histoire, et finalement il y en a peut-être plus tant que ça des athlètes de ce calibre.
Non, il y a plus François parlait des Jeux Olympiques de Mexico en 68 avec le souvenir de Bob Bimon. D'ailleurs, premier jeu télévisé en couleur, pour l'anecdote. Et Bob Beamon avait marqué l'histoire du sport, quoi. Mais Carl Lewis qui en 84 bat tous les records avec une aisance fascinante. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent de sa course à 200 mètres, il aurait pu battre aussi un record, mais il s'est relevé à 10 mètres de l'arrivée parce que c'était tellement facile pour lui. C'est vrai que Carl Lewis, pour les amoureux de sport, dont je fais partie, François aussi et tous les invités autour de la table, Carl Lewis, c'est le Michael Jordan de l'athlétisme, c'est le Johan Cruyff de l'athlétisme. Il a marqué l'histoire, quoi. Il aurait pu encore marquer plus si en 88 il est quand même médaillé d'or parce que Ben Johnson, le Canadien, est déclassé pour dopage. Mais cette médaille en 88, elle est un peu moins savoureuse pour lui. Et ça l'a un peu dégoûté du sport. Mais il a marqué, ouais, 84, ouais, Carl Lewis, il a marqué tous les gens de ma génération et les gens qui sont autour de cette table ont été marqués par Carl Lewis. Ça, c'est indéniable.
Alors, on a réuni quelques personnalités éminentes du football qui ont vécu les Jeux Olympiques. On a avec nous Alex Stasiewicz, Thierry, et je vais te laisser mener un petit peu l'entretien parce que on a Alex pour un temps dans cette première partie, dans cette deuxième partie de l'émission, puisque nous aurons à 10h30 d'autres invités. On aura peut-être l'occasion de retrouver Alex d'ici la fin de l'émission, mais je te laisse prendre le relais justement avec Alex.
Oui, Alex, alors je disais, hein, tu as fait les Jeux Olympiques de 76 à Montréal. On va pas parler du match. Vous avez été éliminé par l'Allemagne de l'Est. Ouais. Alors que vous aviez une grosse équipe avec Michel Platini, avec toi, avec Bruno Baron-Kelly, Eric Pécou, Loïc Camis, Patrick Battisson. Enfin, c'était vraiment une très très grosse équipe. Vous êtes éliminé sur deux pénaltys litigieux, dont un où la faute, elle est au moins à 20 mètres en dehors de la surface. Enfin, c'est un scandale, un vol. On va parler d'autres sports. On parlait de Carl Lewis, Alex. Mais toi, tu es allé voir aussi un phénomène,
oui.
Puisque qui est de chez nous, puisque ce n'est autre que Guidru.
Phénomène de Wani.
Voilà, il est originaire de Wani et c'est Guidru. Et raconte-nous, parce que tu m'as dit une fois que tu es allé voir Guidru. Comment c'était l'ambiance? Qu'est-ce qu'on ressent? En plus, toi, t'es Guidru et de Wani, toi, t'es de Libercourt, vous êtes voisins presque. Comment tu as vécu ce moment-là?
Bon, d'abord, en plus, on connaissait très bien son entraîneur, qui était Monsieur Pierre Legrain.
Oui.
Donc, et moi, avec l'école, on allait toujours sur le stade de Wani, parce que c'était le stade où les écoliers pouvaient aller et tout. Donc, on voyait Guidru s'entraîner, tout ça. Et nous, on était dans les tribunes quand il a couru son 110 mètres. Et il faut savoir qu'un quart d'heure avant, il savait pas s'il allait courir. Parce qu'il était pas bien, il avait une petite gêne, il avait quelque chose comme ça et tout. Et à l'arrivée, il gagne son 110 mètres d'une façon magnifique, quoi, je veux dire. C'était vraiment un monsieur, c'était un grand athlète. Hein.
Tu étais dans les tribunes avec Michel Platini?
Avec Michel Platini, avec toute l'équipe de France, Patrel, le président, tout le monde.
Et comment l'équipe de France a ressenti? En plus, toi, tu devais être fier parce que c'est un voisin, c'est un gars de chez nous, c'est un ch'ti, Guidru. Comment l'équipe de France a vécu ce moment? Parce que Guidru, c'est aussi, ça fait partie de l'histoire du sport.
Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu des phénomènes en matière d'athlétisme, mais c'est vrai que là, voir un garçon comme ça courir comme il l'a fait et gagner comme il l'a fait. Il gagne d'un fil, hein, il se balade pas, il y a pas. Mais je veux dire, c'était fantastique. Et toute l'équipe, on l'a fêté d'ailleurs. Hein. Pas avec Guy, hein, parce que Guy, il était avec son épouse, mais on l'a fêté, oui.
Avec toute l'équipe de France, vous avez fêté la victoire de Guy?
Ah, ouais. Avec le président, avec tout le monde.
D'accord. Alors, pour l'anecdote, Julien, sache que la veille de cette compétition, Guidru, son entraîneur Pierre Legrain, lui disait « il faut que tu travailles la dernière haie ». Il a pris une haie, il l'a sauté, il a dit « c'est bon, je l'ai travaillé ». En fait, il n'a pas travaillé les 10 haies, il a travaillé la dernière, voilà.
Oui, et une petite astuce pour éviter l'entraînement.
Voilà. Et quelle était l'ambiance, on en parlera tout à l'heure avec Joachim Marx, quelle était l'ambiance aux Jeux de Montréal? qui est arrivé 4 ans après les Jeux de Munich on connaît l'histoire, les attentats aux Jeux de Munich. Est-ce qu'il y avait une sécurité accrue pour les Jeux de 76 à Montréal?
Oh là là, elle était beaucoup plus qu'accrue. On pouvait pas bouger, c'était même quand on se déplaçait avec le car, il y avait un hélicoptère et des voitures devant et derrière. Voitures de police.
Ah oui, à ce point-là.
Ah ouais, c'était comme ça. Et puis quand on arrivait au stade, on rentrait dans les sous-sols du stade. Et on dormait, la sieste, on la faisait dans le sous-sol du stade. Ah, c'était vraiment... Il y avait des policiers partout. D'ailleurs, moi, j'ai conservé des photos où je prends des photos sur les balcons avec un policier. D'ailleurs, c'est lui qui m'offre sa casquette quand on quitte Montréal. La casquette de policier, c'est lui, il me l'offre parce qu'on avait discuté, tout ça. Donc, ils étaient en permanence sur les balcons, partout où ils avaient peur.
Et vous étiez au village olympique, vous avez pu rencontrer d'autres athlètes, vivre, donc évidemment, là, il y a une sécurité. En fait, il t'offre la casquette de policier parce que toi-même, Alex, tu étais policier.
Oui, tout à fait. Ouais, mais on pouvait rencontrer tout le monde. Et puis, une petite anecdote, donc je ne sais pas si François Chouz a connu la même chose, mais. Nous, on avait chaque équipe avait sa restauration. C'est-à-dire qu'il y avait des cuisiniers français, il y avait des... nous, c'était plein. Hein. Les Français, c'était plein.
Tout le monde
venait manger à la table.
Tu pouvais poser la question à Joachim, il t'entend. Joachim, est-ce que vous aviez des cuisiniers particuliers pour l'équipe de Pologne?
Non, c'était une autre époque. Quoi. C'était le self, comme on trouve maintenant à Carrefour.
D'accord.
Tout le monde s'est mélangé, les femmes, les hommes. Sauf pour dormir, on a eu 2 villages pour les femmes et pour les hommes.
D'accord. Et toi, François, donc c'était.
Non, j'ai le souvenir dans.
Toi, tu étais au village olympique.
Ouais, on a fait 10 jours au village olympique, le deuxième tour, une fois qu'on a passé le premier tour. Et j'ai le souvenir d'un grand réfectoire où il y avait tous les athlètes qui arrivaient, les Américains, les Anglais, les Japonais, et on avait des tables, bien sûr, qui étaient réservées quand on mangeait ensemble. Mais sinon, on passait l'après-midi, je me rappelle, des fois j'allais prendre une petite collation après la sieste. En face de toi, t'avais une future, j'avais Loïc Méfar, ta future championne olympique du 100 hauteur qui est venue en face de moi, comme ça, avec son survêtement allemand. C'était assez libre, bien organisé, hein, mais par contre, on avait des bâtiments où on logeait, qui étaient réservés qu'à la délégation française. On avait un bâtiment France.
D'accord. Et toi, Alex, c'était mélangé, vous pouvez rencontrer d'autres athlètes, d'autres nations?
Au réfectoire, ouais, mais. On avait quand même nos cuisiniers, tout ça, et puis il y avait notre pilier français aussi qui était là, bien sûr. Mais c'est vrai que c'était mélangé dans les salles, tout ça, ouais, on pouvait se parler, c'était mélangé, ouais, il n'y avait pas de souci, c'était comme ça, mais on faisait quand même, c'était vraiment très... C'est ce qu'on a tous ressenti, je pense, on a ressenti quelque chose de... On a vu qu'il s'était passé quelque chose à Munich, quoi. Ça, c'était sûr. On avait été prévenus aussi par la délégation française, qui disait faire attention, tout ça et tout. On avait été prévenus.
Alex, une question, quand vous jouez ces matchs de foot dans le tournoi olympique, est-ce que, on sait que de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis et au Canada, le foot c'est pas le sport national, je pense là on a Joachim Marx qui joue la finale devant 80 000 personnes au stade de Munich, au stade olympique de Munich, François c'est encore mieux parce que lui il joue au Rose Bowl devant 100 000 personnes, est-ce qu'il y avait du monde dans les tribunes pour le football au Canada?
Non. Il y a eu du monde pour l'athlétisme, toutes les compétitions d'athlètes, tout ça, il y avait du monde. Mais au football, il n'y avait pas de monde. Non. Si, je dirais 5, 6 000, 10 000 personnes maximum. Il n'y avait pas de monde. Même les stades, ce n'était pas les stades comme maintenant, quoi. C'était des stades un peu américains, un peu style baseball.
D'accord. Ok. Et pourtant le stade de Montréal, c'est le même l'architecte, c'est le même architecte que celui du Parc des Princes.
Alors tiens, on parle de foot et on a abordé la question de la médiatisation et des Jeux Olympiques un peu plus tôt dans cette émission. Alors le foot dans les années 70-80 n'avait évidemment pas la même médiatisation qu'à l'époque, mais comment expliquer que le foot, qui est quand même le sport le plus populaire au monde, qui remplit en période de Coupe du Monde, en période de Championnat d'Europe, pourquoi au JO, ça, on s'intéresse moins à ces résultats. On se faisait ce constat avec Thierry, on est capable de se souvenir d'épopées à l'Euro, même si elles n'ont pas été victorieuses, d'épopées en Coupe du Monde. On se souvient peut-être un peu moins des épopées, quand elles n'ont pas été victorieuses, des équipes de football olympique. Pourquoi ?
Alors là, sincèrement, je pense que dans le monde athlétique, ou tous les autres sports, je pense aussi qu'il y a des sacrées vedettes. Hein, ils les ont cités, hein, François et Achou les ont cités. Et je pense qu'il y avait plus d'engouement pour tout ce qui était athlétisme, des efforts personnels, parce que les Jeux Olympiques, c'est un peu ça. Avant d'être un sport collectif, c'est aussi un sport individuel. Et quand on voit comment ils font leurs résultats, les coureurs, tout ça et tout, je pense que c'était plus prenant ça qu'un sport collectif.
Juste une petite question, Alex. François a encore sa médaille d'or chez lui, il la possède toujours. Achou, malheureusement, lui, s'est fait voler sa médaille d'or. Mais toi, bon, t'as pas été médaillé, mais est-ce que t'as gardé la casquette?
Non, j'ai pas gardé la casquette, mais j'ai gardé la photo le jour où il me l'a remis. Alors pourquoi? Parce que j'ai eu 42 déménagements, hein, parce que la vie de footballeur, elle est...
Ben, au moins, t'as un record, Alex.
Ouais, mais là, c'est vrai. Par contre, là, je l'ai, le record.
Et
j'ai quand même été médaille d'argent des Jeux Méditerranéens d'Alger devant 80 000 personnes.
C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que depuis que tu as participé aux Jeux Olympiques, est-ce que tu te passionnes, est-ce que tu suis quand même, après, tu as suivi les Jeux Olympiques, et il y a des images, parce que quand on t'a parlé de ton souvenir, tu as parlé forcément de toi, et c'est une aventure humaine, parce qu'en plus, tu étais avec une équipe magnifique. J'ai d'ailleurs une question, les footballeurs professionnels ont pu participer aux Jeux Olympiques à partir de 1984, c'est le cas de François. Joachim, il était amateur. Toi, tu étais amateur parce que tu étais dans le civil policier et tu jouais au Racing Club de Lens à cette époque-là. Mais les Platini, Pécou, Baron Kelly, Bâtisson, tout ça, ils étaient aussi amateurs à cette époque-là.
Ils étaient amateurs parce que pour participer aux Jeux Olympiques, dans nos années à nous, il fallait avoir une profession. Et donc moi, j'étais policier, il y avait des cyclistes Trentin Morellon qui... Ils étaient postiers. Et je pense que Michel et les jeunes qu'on avait avec nous, je pense qu'ils étaient stagiaires et que la profession de stagiaire était considérée non pas comme pro, mais comme amateur. Je pense qu'il y avait quelque chose dans ce goût-là.
Est-ce que c'était la même approche, Joachim? Est-ce qu'il fallait aussi être amateur, avoir une profession à côté pour être sélectionné en équipe de Pologne?
Bien sûr. Je vous avais dit, c'était une autre époque. On a joué élimination pour se qualifier. On a joué contre Espagne. Il y a eu des joueurs de Real Madrid qui étaient stagiaires. Alors, les stagiaires, ils ont eu droit de participer.
Voilà.
Une dernière question pour Alex, parce que le temps tourne et qu'on va avoir Didier Ollier. On reprendra éventuellement Alex après, Thierry.
Ouais. Une question, comment, et on posera la même question après. Arnaud, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Comment tu as appris et quelle émotion tu as ressenti quand tu as eu ta convocation pour les Jeux?
Oh, c'est toute une péripétie, c'est trop long. La convocation pour les Jeux, j'étais en train de m'entraîner tout seul le soir sur le terrain en noir du stade Bollard. Et j'arrive, donc je m'entraîne tout seul, je faisais du mur. Parce que je sortais d'une blessure, je m'étais cassé le poignet, donc je faisais du mur. Et... il y a un monsieur qui vient me voir, qui était l'adjoint à M. Somaski, Jules Vandoren, qu'Achou a peut-être connu aussi, ainsi que François. Et il vient me voir, il me dit, ah, demain tu dois aller voir M. Tranin. Il était 7h du soir. Hein. Bon, je dis, d'accord. Il me dit, à quelle heure? Ben, je dis, à 10h. Il me dit, M. Vandoren, il me dit, à 10h, Alexandre, il veut te voir. Et quand j'arrive dans le bureau de M. Tranin, il me dit, bon, ben, bonjour, Alexandre. Tiens, il dit, ça c'est ton... ta convocation, tu t'en vas avec l'équipe de France Olympique. Il m'a même donné mon dimanche.
Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Tu t'attendais à ça?
J'y croyais pas. Je rentrais tout de suite à la maison, j'y croyais pas, c'était pas possible. J'ai dit à ma femme, c'est pas possible que je suis le front. Là.
D'accord.
Et si, j'étais parti pour les Jeux Olympiques.
Ok, merci beaucoup Alex, on te rappelle tout à l'heure.
Tu me rappelles.
D'accord, ok.
Allez, à tout à l'heure.
Merci.
Et fais-leur la bise aux deux anciens là.
D'accord, ils t'entendent, voilà.
Surtout aux vieux.
Et le message est passé et on retrouvera Alex un peu plus tard dans cette émission. On parlait, Thierry, de la sélection justement des sportifs. Justement, Anaïs, qui est à mes côtés, qui habituellement réalise la partie technique de ton émission Sport Plus, a une question pour Arnaud Cellier.
Par qui et comment sont sélectionnés les porteurs de flammes ?
Alors, c'est une bonne question. Ça évolue en fonction des années. En fait, là, pour Paris 2024, chaque fédération peut proposer un candidat. Et après, il y aura un vote qui sera réalisé au niveau du Comité National Olympique. Et puis, deux porteurs seront désignés. Enfin, d'ailleurs, les porteurs... Je crois que j'ai mal répondu à la question. C'était porte-drapeau ou porteur de flamme ?
Porteur de flamme.
Alors, je recommence. Donc ça, c'était pour les porte-drapeaux. Les relayeurs de la flamme, alors là, c'est plus particulier. Vous savez que les jeux sont financés par des partenaires privés. Et donc, en fait, les partenaires privés ont énormément de places réservées pour ce relais de la flamme. Et puis après, il reste quelques places pour les représentants du monde sportif. Donc ça peut être des sportifs, des bénévoles, des entraîneurs. Et donc c'est comme ça que sont sélectionnés les différents relayeurs de la flamme.
Et puis on a une autre question d'Anaïs qui est pour Joachim cette fois-ci.
D'où vient votre surnom Achou ?
Ton surnom ? Ah, hein ? Bon, c'est assez loin, hein. Je ne me souviens plus, mais c'est un entraîneur qui m'a appelé comme ça et ça dure jusqu'à aujourd'hui pour certains.
Y a des gens qui connaissent plus fou le surnom de Achou que de Joachim Marx.
Et nous sommes toujours dans cette émission spéciale Destination Jeux Olympiques avec nos invités en studio, Arnaud Cellier, chargé de mission au Comité Régional Olympique et Sportif des Hauts-de-France. Il y a également François Brisson et Joachim Marx qui ont participé à ces Jeux Olympiques. Et dans quelques minutes, à 10h30, nous aurons Didier Oyer qui a également participé aux Jeux en qualité de rameur, qui nous racontera aussi ses souvenirs de Jeux Olympiques. Et Thierry, on va continuer la conversation avec nos invités en studio.
Alors oui, j'ai posé la question à Alex Stasiewicz. Joachim, toi, comment tu as appris que tu allais participer aux Jeux de Munich 72 et quelle a été ton émotion? Qu'est-ce que tu as ressenti le jour de ta convocation?
Bon, c'est la fierté d'abord, mais on savait déjà à peu près qui va être convoqué parce que si tu joues les éliminatoires, tu participes à tous les matchs, tu mets les buts, si tu n'es pas blessé, tu es pratiquement sûr de participer. Alors j'ai appris ça quand même à la télé parce que comme c'est l'habitude maintenant, on a annoncé à 20h au journal la délégation et les joueurs qui sont convoqués. Mais c'était sans surprise pour moi, je me suis
attendu.
Tu
t'y attendais, oui.
Bien sûr, mon fils, qu'il a eu, je ne sais plus quel âge à l'époque, 4 ans, je crois. Christophe, alors, il était fou de joie, et ma femme aussi.
D'accord. Tu m'as dit, quand on s'est téléphoné, Joachim, que j'étais ta mémoire, Christophe avait 3 ans.
D'accord. Ouais, cet âge-là, on n'est pas un an près, ils grandissent petit à petit.
Et toi, François, comment t'as appris que t'allais être sélectionné et qu'est-ce que t'as ressenti?
Ben écoute, oh, c'est un peu comme Joachim. Il y avait quand même eu un tournoi éliminatoire en Europe pendant presque 2 ans avant quand même. Donc c'était une équipe, j'avais participé à tous les matchs des éliminatoires européens contre l'Espagne, contre la Belgique, le match de barrage en Allemagne, donc il y avait 6 matchs déjà que j'étais dans le groupe.
Avec une victoire là-bas en Allemagne.
Avec une victoire en Espagne, avec une victoire en Allemagne au dernier match, un pénalty arrêté d'Albert Rust à la 85e minute, et on gagne à la 80, je ne sais plus combien, donc il y avait un scénario un peu, voilà, donc hold-up un peu hold-up, mais bon, l'équipe était prête. Donc ça s'est fait naturellement, j'étais en pleine forme avec le Racing Club de Lens, je faisais une belle saison. Donc l'objectif c'était soit l'Euro 84, soit les Jeux Olympiques, et bon, je fréquentais l'équipe, j'avais fait l'équipe France Junior, France, France Militaire, France Espoir, France A', j'avais une sélection en A déjà, ouais. Donc ça s'est fait un peu naturellement, quoi, avec Daniel aussi, Daniel Zvereb qui marchait bien.
On va quand même rappeler que François a été champion olympique avec 2 autres Lensois, Daniel Zvereb qui était ailier droit, et Didier Sénac qui, même s'il ne joue pas la finale, a quand même participé et il était aux Jeux Olympiques de Los Angeles.
Alors justement, François, quand on a ce parcours de présélection, en tout cas, et qu'on joue tous les matchs, qu'on fait des prestations qui sont plutôt bonnes, est-ce que on se dit que les JO c'est acquis, ou est-ce que au contraire rien n'est acquis, il faut travailler deux fois plus dur?
Ah non, ce qui me concerne, ça n'a pas été facile. Hein. J'ai pratiquement pas joué en éliminatoire. J'ai fait un match contre la Belgique, et peut-être je suis rentré contre l'Allemagne, donc j'étais pas du tout titulaire dans le premier tour. Et aux Jeux Olympiques, je joue pas le premier match contre le Qatar, et je rentre au deuxième match. Et je marque les deux buts contre la Norvège. Si je marque pas, c'est terminé. Hein. À mon avis, il y a un autre choix. Hein. Donc, on avait fait match nul contre le Qatar 2-2. Fallait absolument, fallait réagir tout de suite contre la Norvège. Mmh. Trois jours après, et Henri Michel a pris la décision de changer trois joueurs. C'était Bijota, Lemou, Jean-Claude Lemou, Dominique Bijota et Brisson. Et donc, on a gagné le match. Et après, moi, j'ai pu quitter l'équipe.
Mais il y avait une pression au coup d'envoi.
Bah, si tu gagnes pas, t'es dehors. Tu rentres en France. Mmh. C'est terminé, quoi. Si on gagne pas ce match, à mon avis, c'est fini, quoi. Donc, on n'aurait même pas été au village olympique. On n'aurait pas connu. On aurait fait un tournoi de football, mais on n'aurait pas fait les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, ils ont commencé quand on s'est qualifié pour aller à Los Angeles, dans le village. Là, t'as la sensation de participer aux Jeux olympiques, mais faut être dans le village olympique. Les Jeux olympiques, c'est le village olympique. Sinon, c'est une compétition de football. Il y a un tournoi comme on a fait. Par contre, les Jeux olympiques, c'est quand même un marathon. T'as 6 matchs, hein. Et tu joues tous les 3 jours, ça dure 20 jours. Hein. C'est pas un tournoi.
Ouais, c'est pas un tournoi.
Donc, et on avait 17 joueurs, 13 joueurs sur le banc de touche. Il y a eu 2 blessés, c'était fini, quoi. Si tu te blesses aux Jeux Olympiques, c'est fini, quoi. Donc, je savais qu'en rentrant contre la Norvège, fallait que c'était une opportunité pour moi de gagner ma place. Et bon, voilà. Donc après, j'ai pu quitter l'équipe, mais bon, ça se joue.
Pas grand chose, quoi.
Ça se joue à ça, quoi. Si je rentre pas là, je sais pas ce qui se passe, quoi.
Et pour les plus jeunes auditeurs, François est buteur en finale, et l'autre buteur c'est Daniel Xureb, donc tu comprends pourquoi les Jeux 84, moi qui suis supporter du Racing depuis 1973, tu comprends pourquoi moi les Jeux de 84 m'ont marqué. Évidemment, il y a Carl Lewis, mais il y avait aussi 3 Lensois dans l'équipe de France des Jeux Olympiques, quoi. Achou, toi aussi t'avais une équipe magnifique avec Lato, Denia, enfin François nous en parle des fois, l'équipe de Pologne, c'était vous étiez programmé pour aller en finale, non? Même si vous aviez joué
pas du tout,
pas du tout.
On est parti pour faire la fête. Il n'y a pas eu de pression, on n'a pas parlé de médailles, on n'a pas eu des objectifs pour participer. Et je crois que la fête était là, justement, au village. Tout le monde était obligé, à l'époque, d'être au village, pas dans les hôtels comme ça se passe maintenant. Alors, c'était la fête, jusqu'à un jour où ça n'était plus.
D'accord. Julien?
Non, je t'invite à continuer la conversation. D'accord. Essaye d'avoir Didier Houillet, mais ça ne répond pas.
Ça répond pas. Voilà, peut-être qu'il est occupé, parce qu'il devait être avec nous en studio, mais un problème d'emploi du temps. On peut pas éviter d'en parler. Achou, tu m'en as déjà parlé plusieurs fois. Tu dis c'était la fête. Malheureusement, les Jeux de 72 sont marqués par les attentats contre l'équipe d'Israël par un groupe terroriste. Est-ce que il y avait une ambiance avant et une ambiance après? Et toi, tu m'as toujours dit que ça t'avait marqué, cette histoire.
Ah bah, bien sûr, il y a eu avant et après. Avant, c'était la fête. On a marché. On n'a pas vu des policiers. On n'a pas vu les soldats. Et les jours où ça arrivait, ça a été, je crois, 3h ou 4h du matin. Et les bâtiments israéliens, ils étaient tout près du restaurant. Alors on arrive pour petit déjeuner, on voit des policiers, les tireurs d'élite sur les toits. Et c'était bazar et on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors au lieu de manger, prendre petit déjeuner, tout le monde s'est arrêté, il regardait, il demandait des infos, qu'est-ce qui se passe. Alors après, la journée, ça a été difficile parce que ça négociait toute la journée. Après, on a vu les arrivées, les 3 hélicoptères et tout ça. Et quand ils ont parti, on a été on s'est retrouvés dans la salle des télés pour suivre, pas les compétitions sportives. C'est plutôt ces événements-là.
Et après un tel événement, ça fait partie de l'histoire aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire des Jeux. Après un événement comme ça, est-ce qu'on arrive à se concentrer pour pouvoir justement aller atteindre cette finale? Dans quel état d'esprit toi et l'équipe nationale de Pologne, dans quel état d'esprit vous êtes pour reprendre la compétition? Ça doit être difficile, non?
Bien sûr. D'abord, c'était la demi-finale contre la Russie. Ça a déjà arrivé. Les Jeux, ils étaient arrêtés pendant une journée. Finalement, ils ont décidé de reprendre les compétitions pour dire que c'est le sport qui gagne. Et avec le match contre la Russie, c'est là où on a eu un peu la pression. Comme on a allé pour ce match-là, on a dit qu'il faut gagner pour être en finale, pour être sûr d'avoir au moins une médaille. Parce que si tu es troisième, pas la même chose. Ouais. Il faut gagner le troisième encore. Et là, tu es sûr. Alors, c'est la pression, on s'est mis nous tout seuls. Mais bien sûr, avec les événements, toute la journée, on a traîné, on a écouté, est-ce qu'on va reprendre. C'est la chance aussi, parce que si les Jeux ne reprennent pas, on n'est pas médaillé d'or, et je ne serai pas ici aujourd'hui. Voilà. Alors non, c'était différent. Il y a des policiers partout. Pour aller en finale, on a été contrôlé, sorti. Tout le monde était contrôlé, sorti du village. Et arrivé, surtout nous, après la finale gagnée, on a déjà arrosé un petit peu dans les vestiaires. Et on a eu deux minibus et les soldats, ils ont entré à l'intérieur pour vérifier les badges avec la photo et tout ça.
D'accord, c'était, je contrôle plus.
Il y a eu la pression, plus c'était plus la même chose. Et tout le monde, ceux-là qui ont arrêté la compétition, ils quittaient tout de suite le village. Parce qu'il y a eu encore des alertes à la bombe.
D'accord. Ok. Il fallait qu'on parle, Julien, de cette page de l'histoire. Et je crois qu'Anaïs a une question à te poser, ou à moi que ça soit, quelqu'un d'autre.
Oui, non, ça va être Anaïs, effectivement. Et elle est finalement en lien, c'est pour ça qu'on la passe à ce moment-là, avec toute cette vie au village olympique et toute cette sécurité qu'il peut y avoir. Et je laisse Anaïs poser sa question.
Alors, est-ce que vous venez accompagner pour votre famille aux Jeux Olympiques?
Non, non. À l'époque, les familles restaient à la maison.
Pareil pour toi, François?
Non, mais par contre, mes parents étaient là-bas.
Ouais, mais ils n'étaient pas invités par...
Non, mais mes parents se sont trouvés... J'ai un demi-frère qui vit aux États-Unis, qui est à Los Angeles dans la restauration. Mes parents étaient partis à Los Angeles pendant le tournoi olympique. Et donc, ils ont pu assister. Je me rappelle que je leur donnais des places juste avant le match devant le stade. Ils ont pu assister au deuxième tour, c'est-à-dire quart de finale, demi et finale. Donc, ma mère, qui n'avait jamais mis un pied dans un stade, elle a vu son fils trois fois dans sa vie jouer au football. Donc, c'est un bon souvenir pour moi.
Est-ce que aujourd'hui, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer, Arnaud Cellier, dans votre rôle de chargé de mission, est-ce que aujourd'hui, justement, ce sont des choses qu'on prend en compte quand on organise des événements sportifs? Parce que il y a le paramètre sécuritaire et puis il y a les données familiales qui ont un peu changé. On sait qu'il y a la question du bien-être du sportif, il y a la question des sportives qui peuvent être aussi mamans. Il y a tous ces débats qui existent. Est-ce que dans l'organisation de tels événements sportifs, c'est pris en compte désormais aujourd'hui?
Alors, tout d'abord sur le village olympique, donc évidemment c'est très réglementé, l'accès au village olympique, et c'est réservé donc aux acteurs des Jeux, donc sportifs, entraîneurs et encadrement, donc les familles ne sont pas au village olympique. La particularité là pour Paris 2024 et ce que l'équipe de France a mis en place, c'est qu'il y aura une maison du sport français à quelques pas du village olympique, où justement les familles pourront se retrouver, et puis il y aura tous les gens qui pourront pas être au village olympique, elles seront dans cette maison du sport français pour apporter le maximum de soins et de conseils aux sportifs français. Il y a un autre aspect qu'on peut évoquer aussi, c'est le Club France qui sera installé au parc de la Villette, où là, ça sera l'espace de célébration après les épreuves. Et là, évidemment, au Club France, tout le monde est le bienvenu, les sportifs, les familles, et puis le grand public également qui pourra rentrer au Club France pour célébrer les victoires françaises.
Alors la majeure partie des épreuves vont se dérouler à Paris, mais il y a quand même deux épreuves en région Hauts-de-France, ce sont les épreuves de hand et de basket. Ça va faire aussi des sportifs français qui seront présents. Alors il y a une résidence olympique qui a été construite du côté de Villeneuve-d'Ascq. En région, ça va se passer comment? Est-ce que les athlètes vont remonter à Paris pour profiter du Club France, ou est-ce que tout va se concentrer à Lille et environ?
Alors, il y a eu beaucoup de débats sur ces épreuves à Lille. Initialement, c'était le hand qui devait disputer tout son tournoi à Lille. Et les handballeurs ont un petit peu râlé, puisque justement, enfin François en parlait également, voulaient profiter de la fête au village olympique. Et donc, l'option qui a été retenue, c'est d'organiser la première semaine les éliminatoires de basket à Lille, pendant que le hand fera ses éliminatoires à Paris. Et puis, la deuxième semaine, en inverse. Et comme ça, les basketteurs et les handballeurs pourront profiter de l'esprit olympique au village. Et en effet, pour les tournois olympiques de basket et hand, il y aura un mini village olympique au stadium de Villeneuve-d'Ascq, où la plupart des sportifs seront logés, mais pas tous. Par exemple, les Américains au basket ont choisi un hôtel, on va dire, un peu plus haut de gamme que le village olympique.
Oui, on en parlait effectivement dans l'interview de Boris Delecroix, le président du club hôtelier Lille Métropole. Destination JO, c'est sur Radio Plus jusqu'à 13h.
Destination JO sur Radio Plus.
Alors, j'ai posé la question, j'ai une question pour vous, Arnaud. J'ai posé la question à Joachim Marx. Quelle émotion a-t-il eu quand il a reçu sa convocation, comme à François et à Alex Stasiewicz? Vous n'êtes pas sélectionné. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que la France allait accueillir ces jeux? Quand on travaille dans le sport.
Une grande fierté, une grande chance de pouvoir vivre cet événement en France. Alors, donc Paris a été désigné en 2017, donc c'est très long le processus de sélection d'une ville olympique. Et le cross, alors à l'époque, moi je travaillais au cross Picardie, et le cross Picardie avait organisé un grand événement à Amiens, justement pour assister en direct à cette désignation. Alors, je ne vais pas dire que les dés étaient pipés, mais c'est vrai qu'on savait a priori avant que Paris allait gagner, puisqu'il restait que deux villes en lice, qui étaient Paris et Los Angeles. Et Paris et Los Angeles se sont mis d'accord pour que Paris prenne 2024 et Los Angeles prenne 2028. Ce qui est sûr de cette soirée, c'est qu'on a réuni plus de 300 personnes, des acteurs du mouvement sportif régional. Et tout le monde était très fier. Et puis, moi, ce que je note aussi des différents témoins là qui expliquent leurs expériences olympiques, c'est l'émotion dans leurs propos. Et tous les athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques, on ressent cette même émotion d'avoir eu la chance de participer au plus grand événement sportif planétaire.
D'accord. Alors, Thierry, on a, excuse-moi, je t'interromps, mais on a un invité en ligne qui lui aussi a participé aux Jeux Olympiques et c'était en canoë-kayak, les Jeux Olympiques de Didier Ollier qui a participé notamment aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 et bien nous avons le plaisir de l'accueillir par téléphone. Bonjour Didier.
Bonjour à toutes et tous.
Salut Didier, c'est Thierry Tempé. Alors Didier, toi, les Jeux Olympiques, t'as une longue histoire, puisque t'es déjà sélectionné pour les Jeux Olympiques de Moscou en 80. Malheureusement, t'as pas pu y participer, puisque la France, tout au moins ta fédération, a décidé de boycotter les Jeux de Moscou. Et je suis avec François Brisson, qui était lui aussi aux Jeux Olympiques à Los Angeles. Il est médaillé d'or, et toi, tu es médaillé de bronze. Quelle émotion, quel souvenir tu as de ces Jeux?
Ah ben, j'ai beaucoup de souvenirs, puisque bon, effectivement, la déception en 80 pour Moscou, mais Los Angeles, c'était mes premiers, donc cérémonie d'ouverture, la rencontre avec beaucoup de pays que je ne connaissais pas d'ailleurs, et puis là, une belle fête, quoi, d'autant plus que la médaille était au bout.
Et tu as vécu comment, toi? François nous a raconté un peu la vie au village. Los Angeles, c'est une très très grosse ville, donc je présume que tu n'as pas visité. Mais comment tu as vécu ces jours au sein du village?
Alors, au sein du village, il faut savoir que le canoë kayak était un petit peu excentré par rapport aux autres disciplines. Donc nous étions à Santa Barbara, nous. Et à côté, il y avait une réserve d'eau. Et on faisait l'aviron et le canoë sur cette rivière-là. Donc moi, le village, je l'ai connu vraiment à la fin des Jeux, hein, donc au bout des 15 jours. Sinon, avant, j'étais avec l'aviron et puis le canoë-kayak. Donc le village, c'était une rencontre entre deux disciplines. Et par contre, à la fin des Jeux, donc au bout de 15 jours, on a intégré le grand village, si je puis dire. Et là, effectivement, la fête, parce qu'il y avait toutes les disciplines sportives de réunies, quoi.
Alors, on entendait bien dans la bouche de François que le village olympique, c'était le lieu incontournable qui résume au mieux l'esprit des Jeux olympiques. Le village olympique, c'est aussi le lieu un petit peu de toutes les rumeurs, un peu de tous les fantasmes. Alors, finalement, et puis ce fameux adage, tout ce qui se passe au village olympique reste au village olympique. Et est-ce que ça a été aussi... un moment où vous avez peut-être cherché le calme, la concentration, ou au contraire, vous y alliez parce que il y avait un esprit de fête, sans parler d'excès, mais de rencontres, d'échanges, pour vider la pression qu'on peut rencontrer dans la préparation quelques jours avant les épreuves.
Oui, comme je l'ai rappelé, nous, à Los Angeles, hein, je parle bien, nous n'étions pas au même endroit, donc quand on a intégré à la fin des Jeux le village où tout le monde était là, effectivement, on était plutôt orienté vers la fête, puisqu'on avait fini les Jeux, quelque part. Hein. Nous, les finales, c'était le samedi, la clôture, c'était le dimanche. Donc, il nous restait la nuit de samedi à dimanche, et on en a bien profité. À Séoul, c'était différent, parce que nous étions partis depuis un mois. Donc, on était partagés entre la fête et puis le retour à la maison. Et puis, Barcelone, j'ai fait que l'aller-retour, quoi. On était en stage dans le sud-ouest, on a pris l'avion à Bordeaux, on est arrivé à Barcelone. On a fait nos courses et on est rentré. Donc ça a été chaque jeu que j'ai pu faire a été différent. Mais effectivement, quand on a fini, c'est la fête, quoi. Oui, là, sans dévoiler de secret parce qu'il y en a pas, mais c'est vrai qu'on se lâche un peu, voire beaucoup.
On va rappeler ton palmarès, Didier, doublement médaillé, médaille de bronze à Los Angeles, médaille de bronze à Barcelone.
C'est bien ça. Et finaliste à Séoul.
Et finaliste à Séoul. Et des trois Jeux Olympiques, est-ce que ça se ressemble? Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu as eu des émotions différentes à Los Angeles, particulières, ou à Barcelone, ou à Séoul? Comment tu as vécu ces trois Jeux?
Les Jeux, c'est déjà sur des pays étrangers, hein, parce que c'était pas en France déjà. C'est aussi le dépaysement, parce que aller à Séoul, ça reste quand même la Corée, donc c'est pas des pays où on y va tous les jours. Donc il y a un peu ce dépaysement là de nature étrangère. Et ensuite dans le village, on retrouve toujours la même sensation, quoi. On oublie tout, quoi. On parle pas de guerre, on parle pas de race, de couleur, on est tous là pour le sport, on est tous là pour en découdre dans notre discipline, mais avec respect de l'adversaire, quoi. Donc c'est vrai que ce sont des moments privilégiés et très riches en émotions.
Et tu as eu, François disait que lui, il est allé voir d'autres disciplines. Alex Stasiewicz est allé voir Guy Dru en 76. Est-ce que toi, tu es allé voir d'autres sports? Et est-ce que justement, en 84, vous étiez tous les deux à Los Angeles? Est-ce que justement, tu es allé voir l'équipe de France? Et est-ce que tu l'as appris d'ailleurs que l'équipe de France était médaillée d'or à Los Angeles?
Moi, j'ai eu la chance d'être derrière le but et j'ai vu le match. Donc... c'était un samedi soir, si mes souvenirs sont bons. C'était la seule discipline que j'ai pu voir, moi.
Donc, tu as vu cette tête fabuleuse de François Bresson quand il s'élève dans les airs, on se demande si...
Voilà, j'étais derrière le but avec les autres membres de l'équipe de France de canoë kayak. Et c'est la seule discipline que j'ai pu voir à Los Angeles. En plus, ils sont rentrés avec la médaille d'or, donc c'était encore d'autant plus beau.
On te parle encore de ce but, François?
Oui, on en parlait.
Hormis quand Thierry le fait, dans les rencontres avec dans les rencontres que tu peux faire, est-ce qu'on te parle encore de ce but?
Écoutez, de temps en temps, pour les gens qui de cette époque, hein, c'est pas les, comme dirait Aznavour, les moins de 20 ans, ne peuvent pas connaître, mais bon. C'est peut-être le but le plus marquant de ma carrière qui va rester, quoi. Je me suis dit, tiens, si j'avais pas marqué de but, peut-être que j'aurais... On parle pas plus de moi. Non, mais bon... oui, de toute façon, ça, c'était un but qui nous a libérés. Hein. Moi, j'ai ressenti sur le terrain comme ça, quoi, que après, c'était plus la même équipe du Brésil en face. Ça les a un peu assommés. Et nous, ça nous a permis une certaine confiance, euphorie. Et on savait qu'on était, il nous manquait plus grand chose après pour aller au bout, quoi. Donc c'est vrai qu'on m'en parle, mais bon, vous savez, le temps passe. Hein.
Et toi, Didier, est-ce qu'on t'en parle encore de hormis exceptionnellement aujourd'hui, puisqu'on fait une émission spéciale, est-ce qu'on te parle encore, toi, de tous les jours au travail, dans ta famille, de ce jeu?
Ouais, peut-être pas tous les jours, mais c'est vrai qu'on nous rappelle, bon, bien souvent, on se présente. Et puis, on dit, ben voilà, Didier, médaillé à tel jeu. Donc, non, c'est... Puis, comme on l'a rappelé, ça fait quand même 40 ans. Hein, les moins de 20 ans n'étaient pas nés. Hein, donc, effectivement, moi, j'ai pris 50 kilos pour la petite histoire. Hein. Donc, voilà, quoi. Mais bon, non, on n'en parle pas. C'est plutôt des bons souvenirs parce que je regrette rien dans mon parcours. Et puis, je suis content d'être en direct avec un footballeur qui est médaillé olympique, quoi.
On en a deux. On a aussi Joachim Marx. Ouais.
Ah ben alors, salut au footeux.
Bonjour.
Alors Didier, je te rassure, hein, autour de la table, à part le monsieur du comité régional olympique qui est en SVET, on a tous pris un peu de poids. Et Didier, tu m'avais raconté une anecdote, en 88, tu partages ta chambre avec un sportif bien connu du Pas-de-Calais, puisqu'il est aussi originaire de Lillers. Tu peux nous dire, sans dévoiler ce qui s'est passé, mais tu peux nous dire qui c'était?
Ah bah écoute, j'ai partagé l'appartement avec des joueurs de tennis. Je ne sais pas si c'est d'eux que tu veux parler.
Oui, bien sûr.
Hein, donc effectivement, il y avait le comte et puis Santoro. Si mes souvenirs sont bons, et sans dévoiler quoi que ce soit, effectivement, on se croisait, parce que nous, quand on partait à l'entraînement, eux rentraient pas de match, parce que ils avaient été éliminés dans les premiers tours, mais ils étaient contents d'être là, donc c'était sympa.
Henri Lecomte perd effectivement au premier tour. Et est-ce qu'il y a des atomes crochus quand un boulonnais comme toi rencontre un Lillerlois comme Henri? Est-ce que tout de suite on va le voir en disant je suis du Pas-de-Calais?
Non, pas du tout, parce que bon, moi je pensais au jeu, et puis je pense qu'ils sont assez sollicités, donc on se faisait discret, mais c'était quand même assez marrant de les croiser. On partageait la même salle de bain, le même appart, hein, puisqu'on était ensemble dans l'appart. Donc lui a regardé des voitures dans des catalogues, moi j'ai enlevé un zéro, tu vois, quand je regardais les mêmes titres. mais bon, voilà, non, c'était bien sympathique, mais on n'a pas pu trop échanger, parce que, comme je te rappelais, quand on se croisait, ils allaient se coucher, ils nous ont partait à l'entraînement, quoi, donc c'était sympa.
Ouais, enfin, quand ils rentraient de match, ou quand ils... On va rien dire.
Je vous donnerai pas l'heure des entraînements.
D'accord. Et Barcelone, on parle tout le temps de Carl Lewis à Los Angeles, qui a marqué l'histoire du sport. On a parlé de Guy Drew. Barcelone, tu vis aussi un moment extraordinaire avec Marie-José Pérec.
Ah ben oui. Alors, malheureusement, quand nous, c'est vraiment la dernière semaine, donc on n'a pas trop le temps de... Mais on se croise dans le village, on se croise éventuellement au Club France. D'ailleurs, c'est une belle formule, le Club France. Hein. Parce qu'il faut savoir que les athlètes médaillés, ils se retrouvent le soir même de la médaille et on partage des bons moments. Alors moi, j'ai vécu, mais qu'à la fin, puisque la première semaine, c'est l'aviron, et la deuxième semaine, c'est le kayak. Donc, mais c'est vrai que c'est des moments privilégiés de pouvoir... Quand je suis allé à Pékin pour le département, j'ai croisé Teddy Riner, donc qui venait de faire sa médaille de bronze. Donc c'est des moments qu'on n'oublie pas, parce que effectivement j'ai fait des jeux en tant qu'athlète, mais j'en ai fait en tant qu'entraîneur. J'ai fait Sydney et Séoul, et pour le département du Pas-de-Calais, pour aller vendre de la base arrière en 2012, j'ai dû aller et je ne regrette pas. Je suis allé à Pékin pour vendre du Pas-de-Calais, quoi. Donc de très 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 bons souvenirs.
Qu'est-ce que tu as fait de tes médailles, justement, Didier?
J'avais posé la même question.
écoute, elles sont dans une vitrine. Elles ont été une période dans mes toilettes. Et là, mon épouse a voulu refaire la déco. Donc, la vitrine, elle est montée au-dessus du garage, dans une pièce qui se veut symbolique, parce que ça retrace un petit peu tout mon parcours depuis 52 ans où je fais du canoë. Donc, voilà, c'est ma pièce. C'est très intime, parce qu'il n'y a que moi qui y vais. Et... écoute, j'écoute de la musique, je bois un coup de temps en temps, puis voilà, quoi.
Même question pour François et pour Joachim.
Chez moi, elle est dans une vitrine, quoi, depuis pas mal de temps, depuis que je suis installé à Lens. Donc, la vitrine n'a pas bougé. Je l'ai pris dernièrement pour aller à Paris. On a eu une réunion entre les Olympiques il y a 15 jours pour le tirage au sort du tournoi de foot. On était tous invités. C'est la deuxième fois qu'on se voyait en 40 ans. On s'est vu deux fois. On s'est vu une fois en 2014 avec encore.
Pour les 20 ans, oui.
Pour les 20 ans avec Henri Michel qui était toujours là. Et on s'est vu il y a 15 jours. Donc, depuis la finale olympique, on s'est vu deux fois. Et donc la médaille, on m'avait demandé de l'emmener à Paris et on a fait une photo souvenir pour les futurs jeux pour les futurs jeux de Paris, quoi.
Et pour Joachim,
c'est la même chose. J'ai une vitrine que mes enfants y vont faire toute ma carrière de joueur en Pologne jusqu'à la finale. Des photos et la médaille, il est collé au milieu sur les toits du stade olympique de Munich.
Alors pour Joachim, il faut préciser que ce n'est pas la médaille originelle, puisque la médaille, tu te l'es fait voler.
Ouais.
Et ça, c'est les aléas et évidemment, ça laisse un mauvais souvenir.
Ça vient de Genève, alors on considère que c'est...
Oui, non, mais tu as la médaille,
mais c'est pas les
celle
premiers,
que tu as reçue à Munich. Tu
et ça a été volé à Lens. Alors, quelqu'un qui l'a encore aujourd'hui.
Nous reste 3 minutes avant la fin de cette heure. On a le temps de poser une dernière question avant de remercier Didier de nous avoir accompagnés, qui est resté avec nous jusqu'à 11h.
Didier, qu'est-ce que tu attends, toi, puisque tu es au cœur de l'événement, puisque tu es un ancien sportif, tu as été entraîneur, et puis tu travailles pour le département du Pas-de-Calais, et qui va accueillir les Jeux. À quoi tu t'attends sur ces Jeux-là de Paris 2024? Qu'est-ce que tu espères?
En 2 minutes, Didier.
Bon, écoute, j'espère beaucoup, à savoir déjà en termes de sécurité, hein, j'aimerais bien que ça se passe bien, que les gens aient de bons souvenirs de Paris, aussi bien les spectateurs que les athlètes. Ensuite, bon, effectivement, vu qu'on est en France, un maximum de médailles. Et puis, après les Jeux, ce serait sympa que les équipements qui ont été faits pour ces Jeux-là puissent servir à d'autres événements, comme championnat du monde, championnat d'Europe, ou même voir championnat de France. Donc voilà, mais mon souhait, il est plutôt là-dessus. Avant tout, de la sécurité, parce que malheureusement, on est dans des temps un peu critiques, quoi. Donc voilà, c'est mon souhait le plus fort, et puis beaucoup de médailles en France, quoi.
D'accord. Merci beaucoup, Didier, de ton intervention, qui est toujours très, très intéressante. Et on se retrouvera très rapidement, Didier. Merci beaucoup.
Et merci de m'avoir fait partager ce moment avec les footeux que j'ai pu voir derrière un filet de but. Et encore félicitations à eux.
À toi aussi.
À toi aussi.
Allez, salut, au plaisir.
Salut, Didier. Merci, Didier, qui a eu la gentillesse de nous accorder effectivement quelques minutes dans un emploi du temps chargé. Vous êtes toujours à l'écoute de Destination JO. Il nous restera 2 heures à passer ensemble à partir de 11h. De 11h jusqu'à 13h, on a encore beaucoup de choses à retrouver. Évidemment, tous les souvenirs de nos invités en studio et les anecdotes sont encore nombreuses. Thierry, tu ne me contrediras pas. On écoutera également une interview de Audrey Feutry qui est en passe de se qualifier, on l'espère en tout cas, pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. On aura également une interview de Jean-Claude Leroy, le président du département du Pas-de-Calais, qui nous évoquera ses attentes sur les Jeux Olympiques. Et puis on aura également par téléphone Didier Ollier qu'on vient d'avoir, mais Mathieu Boderlic qui était aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Et puis on retrouvera sans doute Alex Stasiewicz d'ici la fin de l'émission. Vous restez bien à l'écoute de Radio Plus. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre émission spéciale Destination JO.
Destination JO sur Radio Plus.
Commerçants, si vous écoutez ce message, c'est que vos futurs clients l'écoutent.